Voilà, je voudrais aller avec vous dans l'Ancien Testament et lire, pour commencer, quelques versets qui se trouvent dans le livre du prophète Jérémie. Dans le livre du prophète Jérémie. Et c'est un texte qui se trouve au chapitre 1er et au verset 11. On va lire les versets 11 et 12. Ils vont nous servir de base pour notre réflexion, notre méditation de ce matin. Et nous pouvons y lire ceci. Jérémie, chapitre 1er. Verset 11e, vous l'avez trouvé ? Alors voici, je vous le lis. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Alléluia. Donc nous voyons au travers de ce texte, eh bien que Jérémie est interpellé par le Seigneur. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance et Dieu se sert d'hommes particuliers, les prophètes, eh bien pour leur donner un message qu'ils devront répercuter eh bien au peuple de Dieu. Et ici une vision, on ne sait pas de quelle façon les choses se sont faites, mais une vision est donnée à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie ? Mais je vois une branche d'amandier et Dieu lui répond en lui disant, mais tu as bien vu, eh bien, car je veille sur ma parole eh bien, pour l'exécuter. Jérémie, c'est un prophète important dans la Bible parce qu'il annonce un renouveau. Il annonce un renouveau. C'est un livre, le livre du prophète Jérémie est parfois un petit peu compliqué à lire, non pas qu'il soit difficile à comprendre, mais les temps dans lesquels ça se passe, c'est vraiment compliqué parce que tout s'effondre. Et rien ne va. S'il y a vraiment un prophète pour qui c'est difficile et c'est dur de servir le Seigneur, c'est bien à son époque. Le peuple refuse d'entendre les avertissements de Dieu, endurcit son cœur. Jérémie est obligé d'annoncer des choses extrêmement dures qui vont néanmoins s'accomplir. Le pays va être envahi par des ennemis extrêmement cruels. Ils vont être déportés, ça va être ravagé, le temple va être détruit, la ville de Jérusalem va être mise à sac. Et lui, Jérémie, qui est vraiment, lorsqu'on lit, c'est une âme sensible, mais il pourra même dire, si ma tête était remplie d'eau, mes yeux pourraient pleurer sans arrêt. Voyez, et il se trouve dans cette situation, mais vraiment affligé, heureux bien sûr de servir le Seigneur, dira, mais moi je n'ai pas refusé de te servir, d'être pasteur, dira-t-il, mais il comprend combien c'est un moment difficile pour le peuple de Dieu. Et pourtant, au milieu de toute cette souffrance, il annonce un renouveau. Alléluia. Il annonce un renouveau. Il annonce que c'est pas terminé. Mais alors, non pas lui seulement, mais bien sûr, nous l'avons compris, c'est le Seigneur qui parle au travers de son prophète. Alléluia. Et un véritable prophète répercute, les paroles de Dieu lui-même. Et alors que le peuple va être déporté en exil, il annonce le retour du peuple. Alors que ce peuple se détourne de l'alliance de Dieu, Jérémie au chapitre 31 annonce une nouvelle alliance où Dieu lui-même changera leur cœur. Alléluia. Il écrira sa loi dans leur cœur et tout cela sera repris même dans le Nouveau Testament. Et alors que ce peuple s'égare, Dieu leur annonce qu'il se révèle pleinement dans son cœur. Et c'est ce que nous voyons à l'appel de ce prophète, qui est encore un jeune homme lorsque Dieu l'appelle, au travers de cette branche d'amandier. Alors, je ne suis pas un spécialiste en botanique, en agriculture ou dans tout ça, là. Mais peut-être qu'il y en a certains qui peuvent... J'ai lu, alors ça, l'amandier, je l'ai lu, j'ai des ressources, je me suis documenté. L'amandier, c'est l'arbre qui fleurit le premier. Vous êtes d'accord ? Il annonce le printemps. Alors que l'hiver n'est pas encore tout à fait terminé, il annonce le printemps. Et ici, nous voyons que Jérémie est caractérisé par un ministère alors que les épreuves ne sont pas encore terminées. Alors que, peut-être, et pour le peuple de Dieu, là, ici, le pire restait à venir. Dieu dit, il y aura une fin glorieuse. Alléluia. il y aura une fin glorieuse. Et je crois que, mes frères et sœurs, cette façon de considérer les choses devrait nous éveiller, éveiller en nous un regard différent, et bien sur les événements de nos vies, même si des choses difficiles peuvent nous arriver, le Seigneur et bien nous montre que il y a une lumière, il y a et bien une solution, il y a une sortie de crise et bien qui vient de lui seul. Et l'Écriture nous dit, il est celui qui veille sur sa parole afin de l'accomplir. Il est celui qui veille. Et en me documentant, j'ai trouvé qu'en hébreu, le mot amandier, ça signifie celui qui veille. Celui qui veille. Voilà, il veille. Et oui, parce que cette fleur qui vient à la sortie de l'hiver ou encore à la fin de l'hiver, elle deviendra eh bien, un fruit. Mes frères et sœurs, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un quand même? Dites-moi, ça ne vous fait pas penser à quelque chose, à un autre épisode dans la Bible où un homme avait un bâton d'amandier, on lui a contesté la suprématie en lui disant « Est-ce que c'est toi vraiment qui va nous représenter devant Dieu ?» Vous vous souvenez de ça? Ça ne vous dit pas quelque chose dans la Bible? Le premier souverain sacrificateur, Aaron, et qu'a dit l'Éternel? Il a dit « Mais mettez tous les bâtons des chefs !» devant la tente de l'Éternel, devant le tabernacle, qu'il passe la nuit. Et celui qui aura fleuri, ce sera celui que j'ai choisi. Et seul le bâton d'Aaron eh bien, poussa des bourgeons, des fleurs, et donna quoi ? Des amandes. Et l'amandier eh bien, représente Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. L'épreuve peut être au paroxysme, mais lui, il annonce « La victoire m'appartient ». Alléluia, il est ressuscité d'entre les morts. Il est le vainqueur sur Satan. Il est vainqueur sur les tentations. Il est vainqueur sur le péché. Alléluia, il veut partager sa victoire avec toi parce qu'il t'aime. Amen. Alléluia. Mais ça change, ça transforme tout. Amen. Mais prions le Seigneur afin qu'il nous réveille, qu'il éveille eh bien, notre cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions nous emparer de ses promesses et de cette parole. Alors je voudrais simplement eh bien, voir ce temps de méditation de la parole de Dieu au travers de ce thème eh bien, que Dieu veille. Et le premier point, ce serait que Dieu, notre Dieu veille, qu'il veille eh bien, sur sa parole, qu'il veille également sur notre avenir et qu'il veille à ce que nous aussi nous veillons. Voyez, veillez et priez. Alléluia. Il n'y a pas que le Seigneur qui doit veiller, mais nous également, eh bien, nous avons besoin de veiller. Alors le Seigneur dit à Jérémie, eh bien, je veille. Nous savons dans la parole de Dieu que Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Dans le psaume 121, au verset 3, il nous est dit, « Celui qui te garde ne sommeillera point, voici il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Alléluia. Amen. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il gardera ton âme. Alléluia. Il est celui eh bien, qui veille sur toi. Et l'Écriture eh bien, veut nous enseigner que nous avons besoin d'être pleinement conscients eh bien, de tout cela parce que Dieu veut accomplir eh bien, ses paroles, et sa parole eh bien, dans nos vies. Et de la même manière eh bien, que cette fleur apparaît eh bien, à la fin de l'hiver et elle deviendra un amandier, le plan de Dieu s'accomplira. Alléluia. Le plan de Dieu s'accomplira. Mes frères et sœurs, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas, que nous le saisissions ou que nous ne le saisissions pas, Dieu accomplira toujours sa parole. C'est ce qui avait été dit à une certaine jeune fille qui était reine, la reine Esther. Vous aimez l'histoire de la reine Esther avec Mardochée ? Il lui dit, mais qui sait si ce n'est pas pour de tels moments, alors que le peuple d'Israël allait être voué à une mort certaine, que Dieu ne t'a pas donné eh bien, cette position-là. Et ne crois pas que parce que tu es devenue reine, que tu échapperas. Mais tu as besoin de prendre position. Que ce soit par toi ou par quelqu'un d'autre, eh bien, Dieu quand même agira. Alléluia. Et nous, nous voulons dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Amen. Alléluia. Je veux voir tes projets, tes plans. Je fais une petite parenthèse pour dire, ce n'est pas des rêves. Dieu ne rêve pas, parce que Dieu ne dort pas. Mais Dieu a des plans. Alléluia, moi ça me rassure. Parce que des fois, les rêves, les gens qui rêvent, des fois ça vient de Dieu, des fois ça ne vient pas du Seigneur. C'est de la chair. Mais nous, nous plaçons notre foi dans le plan de Dieu, dans le salut eh bien, que Dieu nous donne. Et ce fait de dire que Dieu veille eh bien, nous amène à considérer la personne de Jésus-Christ. Vous savez, dans la Bible, le mot ressuscité en grec, eh bien, est le mot traduit le mot se réveiller. D'ailleurs, dans la Bible, bien souvent, Paul, lorsqu'il parle de ceux qui nous ont précédés et qui sont morts en Christ, il nous dit ils dorment, ils sont dans le repos, ils sont dans la présence du Seigneur, mais ils ne sont pas encore entrés dans la réalité des choses à venir, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, dont l'Apocalypse nous parle, mais ils se reposent. Et je voudrais vous dire, cependant, que le Seigneur, lui, ne se repose pas. Il est ressuscité d'entre les morts, alléluia. Il est souverainement élevé et il règne. Son règne a déjà commencé, amen. Je disais tout à l'heure à David, mais merci Seigneur pour ces beaux chants où il nous parle de lui qui est majestueux et plusieurs fois assis sur le trône, alléluia. Mais le Seigneur est en action, amen. Il veille sa parole pour la mettre en pratique, pour l'accomplir. Il est souverainement élevé, il est assis à la droite de la majesté divine, il est le Fils de Dieu, il est celui qui intercède pour nous. Le souverain sacrificateur, il est le chef de notre foi, alléluia. C'est lui qui suscite la foi en lui et c'est lui qui l'amène à la perfection afin que nous puissions remporter de grandes victoires. Il intercède pour nous, amen. Vous êtes avec moi là ? Dieu s'est fait homme. Il a porté notre misère, notre péché. Il est ressuscité d'entre les morts. Et le Fils nous représente auprès de Dieu pour dire « Vois mes marques, vois ce que j'ai accompli, je suis leur sauveur, donne-leur la victoire. » Alléluia ! Et le Père eh bien, l'a fait assis à sa droite, c'est-à-dire dans une position de force et d'autorité, de telle sorte que le Seigneur travaille avec son peuple, travaille avec son Église. Alléluia ! Amen ! Et peut-être nous avons besoin de réapprendre eh bien, le goût de travailler avec Christ, disant « Seigneur, je ne compte pas sur mes efforts, je ne compte pas sur mes élans, je ne compte pas sur ma technique, mais je veux compter sur une action du Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui touche les cœurs. C'est toi, eh bien, qui amène à la repentance. C'est toi, Seigneur, eh bien, qui te lève. Et c'est toi qui amène les choses à la perfection. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité d'entre les morts et tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir. Je crois qu'il y a besoin que dans l'Église et dans ce monde, il y ait des Jérémies. Vous savez, Jérémie, ça veut dire... Alors, vous voyez, je travaille quand même. Jérémie, eh bien, ça veut dire l'Éternel se lève. Remarquez, les ténèbres sont là, mais lui, il dit l'Éternel se lève ou l'Éternel est élevé. L'Éternel va intervenir. Dieu va agir. Dieu va intervenir. Vous vous souvenez, la semaine dernière, eh bien, nous avons lu ce récit des disciples d'Emmaüs qui étaient tout tristes et comment le Seigneur est allé les chercher pour leur dire d'aller plus loin. Alléluia, amen. Le Seigneur n'a pas voulu eh bien, qu'ils restent dans un abattement alors que leur Seigneur était souverainement élevé, qui venait de vaincre. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire peut-être à un frère, à une sœur, eh bien ce matin, eh bien pourquoi es-tu tout triste ? Jésus est vivant, le vainqueur c'est lui, reprends le chemin de la victoire, alléluia ! Peut-être sur ton moral, ta vie intérieure, peut-être, eh bien comme ça a été dit tout à l'heure, sur une situation de péché qui te tient, mais Jésus te donne l'autorité de briser les liens du péché, amen ! Alléluia ! La gloire de Dieu, c'est de voir sa victoire au milieu de ses enfants. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. L'Écriture veut te voir peut-être reprendre l'initiative en matière d'éducation auprès de tes enfants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Internet, le téléphone, on est dépassé. Non, mais on n'est pas dépassé du tout. On a le Seigneur, alléluia, et je voudrais vous dire, on a le forfait le plus formidable qui existe. Hein. On a ligne directe avec le Seigneur par le Saint-Esprit, alléluia, amen. Mais mettez-le en pratique, les parents. Oh, il y a des enfants ici, ils savent que... Moi, j'en ai fait partie de ça. Vous savez, quand c'est quelque chose de redoutable dans la maison quand on a un papa ou une maman qui marche avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il révèle tout. Comment tu le sais ? Ah, j'ai prié. Le Seigneur me l'a montré. Eh ouais. Ben, gloire à Dieu, alléluia. Ça, c'est entré dans ton cœur. Je ne veux pas que ça entre dans la maison. Il faut que ça sorte de ton cœur. On va prier. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur veille, alléluia, sur nos vies. Et mes frères et sœurs, peut-être quelqu'un a-t-il besoin, et certainement, de reprendre l'initiative. Crois seulement et elle sera sauvée. Luc chapitre 8, verset 50. Alléluia, 8, 50. Et mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de revenir à une vision concrète de la position de Jésus, de sa gloire, de sa victoire. Merci Seigneur, tu as porté la croix. À jamais dans tes mains, eh bien, la marque des clous. Tu es l'agneau qui a été immolé, mais tu es sur le trône. Alléluia, tu es le vainqueur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tout cela nous amène à développer et à considérer qu'il faut reprendre l'initiative. Allez, sois un Jérémie et déclare la victoire. Dieu se lève, même au milieu des ténèbres. Et le mot que je voudrais voir avec vous maintenant, plutôt le deuxième point, le Seigneur veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ce qui est important à noter, c'est que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que au-delà de nos émotions, au-delà de nos larmes, au-delà de ce qu'on comprend, de ce qu'on ne comprend pas, il y a quand même des principes bibliques qui ne changent pas. Dieu n'exécute pas, même si on en a tellement envie qu'on en pleure, il n'est pas là pour exécuter un projet personnel. Même s'il y a une motivation qui nous semble tout à fait sincère et que ça semble tout à fait justifié, le Seigneur n'est pas là pour, j'allais dire, accomplir n'importe quel désir qui nous passe par la tête en disant, ben voilà. Non, non, le Seigneur veut exécuter sa parole. Je fais un bref petit détour dans le deuxième livre des Chroniques, si vous voulez bien, pour vous parler d'un roi qui a un témoignage excellent dans les Écritures, c'est le roi Josias. L'Écriture nous dit qu'il rétablit le temple de Jérusalem. Il va y avoir une fête pour Pâques qui sera extraordinaire, rétablit le peuple dans l'Alliance. Bon, lui, il est touché, il est convaincu. Bon, il oblige un peu tout le monde à faire comme lui. Hein. Voilà, bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode d'évangélisation, mais bon, bref. Mais il est tellement zélé pour le Seigneur, quand il y a un pharaon, le pharaon Nécho, qui monte de l'Égypte pour attaquer, pour entrer en guerre contre un autre ennemi, il se met en travers de sa route et il nous est dit ceci au verset 20, vous voyez, de Chroniques 36, verset 21, il nous est dit, Josias marcha à sa rencontre et Nécho, le pharaon Nécho, lui envoya des messagers pour dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venait de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, là. Vous savez que Dieu est capable de se servir même d'un converti pour nous parler. Hein. Et c'est ce qui se passe, là. Il aurait dû comprendre. Il n'a pas compris. Et il nous a dit ceci, il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi car je suis gravement blessé. Je vais un peu plus bas. Au verset 24, il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Et voici verset 25, Jérémie fit une complainte sur Josias, etc., etc. Donc on s'aperçoit, mes frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'on aime le Seigneur qu'on veut voir la gloire de Dieu, l'Égypte c'est l'ennemi, et bien que Dieu est forcément dans cette affaire. On a besoin vraiment de rester attaché à la parole de Dieu. Et parfois la parole du Seigneur, elle nous est communiquée par une direction qui vient de frères, qui vient de sœurs. C'est bon quand un frère ou une sœur nous parle. Prêtez-y attention. Peut-être que ça ne vient pas du Seigneur, mais peut-être que ça vient de Dieu. Parfois, on m'a dit certaines choses, j'ai dit, je vais y réfléchir. Alors, si c'est devant Dieu, c'est bon, ouais, ok. Si ce n'est pas bon, on met de côté, mais si c'est bon, Seigneur, merci de m'avoir averti. Il y a quelques années en arrière, un frère a eu à cœur de partir dans un certain territoire d'outre-mer pour servir Dieu. Et beaucoup de pasteurs lui ont dit, n'y va pas, c'est pas pour toi. Dieu m'appelle. Il a été cassé dans cette direction, il y est allé. Et lorsqu'il est revenu, c'était un peu l'ombre de lui-même. Mes frères et sœurs, Dieu veille sur sa parole. Et nous, nous avons besoin de veiller à nous attacher à la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Alors la mousson. Oh. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Seigneur, je veux me laisser éclairer eh bien, par ta parole. Et vous savez comment l'apôtre Paul a persuadé, a démontré que Jésus est le Christ ? Mais si vous lisez les Actes des Apôtres, il s'appuyait sur les Écritures. Lui, il n'avait que l'Ancien Testament, les prophètes, etc., les psaumes, Ésaïe et le livre de la Genèse, et il s'appuyait là-dessus. Et qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, pourquoi il a été si efficace ? C'est que le Saint-Esprit qui a inspiré ses paroles, mais il continuait son action dans les cœurs pour dire « Ce que dit cet homme, c'est vrai, c'est juste. Dieu, depuis toute éternité, a promis de donner un sauveur qui serait son fils, qui souffre à la croix pour vous libérer de vos péchés. Placez-y votre confiance et vous y serez sauvés. Alléluia ! De telle sorte que l'apôtre Paul dira, mais c'est par une abondance de paroles, par une démonstration de sagesse, mais c'est par une démonstration de puissance et d'esprit, alléluia, eh bien qu'il a pu prêcher que Jésus-Christ est crucifié, afin que leur foi soit appuyée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen, alléluia. Mes frères et sœurs, combien, eh bien peut-être avons-nous besoin, eh bien de revenir eh bien, à toutes ces choses-là. Je vous ai parlé de ministère tout à l'heure, mais ça vaut également pour n'importe quelle autre vie, bien entendu, qui veut marcher avec le Seigneur. Par exemple, je vous donne une parole que je lis dans l'Écriture. Luc 21, verset 19. « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Eh bien, je ne sais pas si Pierre s'en est souvenu, mais lorsqu'il prêche dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui marque au chapitre 2, eh bien, l'Église de Jérusalem, c'est sa persévérance. Il persévérait dans l'enseignement des prophètes. Il persévérait dans les prières, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Voyez ? Et en raison de cette persévérance, cette petite Église-là, qui était toute naissante, avec à côté des gens qui étaient prêts à les tuer, mais elle a vaincu tous les persécuteurs, elle a envoyé des ministères, elle a produit du fruit, des hommes et des femmes se sont convertis malgré la persécution. Alléluia ! Pourquoi ? Parce qu'ils ont persévéré. Amen ! Et je voudrais dire peut-être à un frère et une sœur au milieu de nous, eh bien persévère dans les voies du Seigneur. Alléluia ! Persévère. Le Seigneur Jésus dira à son Église, eh bien de Philadelphie, dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset, au verset 10, il nous est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alléluia ! Le Seigneur nous dit, il y a une récompense pour tes œuvres, pour ta fidélité, pour ta persévérance. Amen, alléluia, persévère. Sois un Jérémie, même au cœur des ténèbres. C'est ça la persévérance. Dieu va agir. Alléluia, merci Seigneur. Persévère, même si tu vois, eh bien, en apparence, ton ennemi réussir, ou plutôt le plan de Dieu, tu dis, mais quand est-ce que ça va s'accomplir ? Vous savez, il y a un garçon dans la Bible, je parle à un garçon, hein, bon, c'est affectueux, qui aurait pu penser comme ça, c'est David. Dieu lui promet, il l'appelle, c'est son élu, son oint, il préfigure Jésus, le Christ, il lui dit qu'il sera roi, mais c'est tout l'inverse qui se passe. Ça n'a rien à voir au début. Au contraire, d'avoir le trône, il est pourchassé partout. Il est obligé de se cacher, etc., à droite, à gauche. Il commet même des erreurs à cause de cela. Dieu le relève, il apprend. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais une fois que toutes ces choses seront accomplies et que finalement, eh bien, le plan de Dieu eh bien, va s'accomplir parce que eh bien, Dieu veille sur sa parole eh bien, pour l'exécuter, eh bien, il nous laissera ce témoignage dans le psaume 37 et il dira ceci, « Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Ils seront aussi vite fauchés que l'herbe. Confie-toi en l'Éternel. Pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Alléluia. Mais voilà, Seigneur, je persévérerai dans la foi. Amen, alléluia, c'est ce que je veux faire, c'est notre part mes frères et sœurs, alléluia, et nous voulons eh bien, avancer eh bien, à cet égard également de progrès en progrès, que le nom du Seigneur soit béni. Notre Seigneur veille également sur notre avenir. C'est mon troisième point. Et je voudrais lire avec vous maintenant. Vous êtes toujours là ? Voilà, présent de corps et d'esprit. Voilà. Ben, y a moins d'amen là, mais... Non, vous êtes là. Jérémie, chapitre 32. 32, verset 6. Jésus veille sur ton avenir. Et il demande de prendre position et de faire des projets dans le sens de sa parole. Même si, humainement parlant, ce n'est pas le moment. Regardez ce qu'il nous est dit. Jérémie 32, verset 6. Jérémie, parce que c'est pratique, hein, la vie avec le Seigneur. Hein. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anaméel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel. Voyez, selon la parole de l'Éternel. C'est aussi à ça qu'on reconnaît la parole de l'Éternel, à s'accomplir. Hein. Dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Vous avez remarqué tout à l'heure ? Il a résisté, le roi Josias. Mais là aussi, c'est la parole de l'Éternel. J'achetais de Anaël, donc fils de mon oncle, le champ qui était à Anatote. Je pesais l'argent, voilà. Vous lisez la suite. Il écrit un contrat, il y a des témoins, il pèse l'argent. C'est très, 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 très documenté. Et il dit ceci au verset... au verset 14, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Le contexte, c'est que Babylone, Nebuchadnezzar, ils sont à la porte. Le cœur du peuple s'endurcit par rapport à Dieu, mais c'est surtout pas le moment de faire des projets d'acquisition. Si tu as un petit peu en caisse quelque chose, voilà, garde-le, parce que les lendemains vont être difficiles. Et là, le Seigneur lui dit, non, il faut que tu achètes, tu as droit de rachat, parce qu'on va planter encore, on va bâtir encore, alléluia. Et je crois que, également pour l'Église, eh bien, c'est le temps encore de bâtir. Alléluia. C'est le temps encore d'acquérir des champs, l'évangélisation. Alléluia. C'est encore le temps de semer. C'est encore le temps de se projeter. Eh bien, pour dire, eh bien, le Seigneur, eh bien, veut faire encore des œuvres. Il veut continuer, eh bien, à ce que nous puissions, eh bien, être bénis par lui. Et peut-être à titre personnel, quelqu'un, eh bien, qui est peut-être arrêté par certaines difficultés, qui se dit, mes projets doivent s'arrêter. Alors, bien sûr, il faut étudier toutes sortes de projets, comprendre s'ils viennent du Seigneur ou s'ils ne viennent pas du Seigneur. Mais ici, il reconnut que c'était la parole de Dieu et Dieu lui dit, vas-y, alléluia. Ne considère pas ce que les hommes considèrent, les circonstances des hommes. Considère ce que je te dis, ma parole, alléluia. Parce que je veille sur elle pour l'exécuter, amen, alléluia. Et en ce qui nous concerne, nous voulons rester attachés à la parole de Dieu. Je le cite, mais dans Ésaïe, au chapitre 8 et au verset 20, il nous est dit « à la loi et au témoignage ». Si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Mon frère, ma sœur, combien nous avons besoin. Mais je crois qu'on l'a chanté tout à l'heure, où ça a été dit « gardez la parole de Dieu ». De garder sa parole, alléluia. Mais l'Écriture nous dit, mais celui qui la garde, qui l'entend et qui la met en pratique, il est semblable à un homme intelligent qui bâtit sa maison sur le roc. C'est encore temps de bâtir sur Jésus, alléluia. C'est encore temps de faire profiter les enfants de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. N'abandonne pas ta place de père, de mère le soir, quand tu couches tes enfants, de prière avec eux. N'abandonne pas le culte personnel de la famille. N'abandonne pas, eh bien, ce que le Seigneur veut te confier encore pour son œuvre, alléluia. Il est encore temps de bâtir, alléluia. Et ce qui est bâti, eh bien, sur Christ, eh bien, ça tient debout. Parfois, vous savez, il y a des considérations qui sont pseudo-spirituelles. Ma mère s'est fait baptiser, alors si je me souviens bien, je crois que c'était en 1972 quand même. Et je suis né en 1972. Vous connaissez mon âge. Je crois que vous le connaissez. Et ouais. Et là, il y a des chrétiens qui sont... Parce qu'à l'époque, c'était la guerre froide, vous vous souvenez? Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens. Bon, bref, hein, voilà. L'URSS, les États-Unis, Nixon... Patricia, tu t'en souviens? Moyen. Bon, Monsieur Lone, peut-être, hein, les plus anciens. La guerre froide, et Gog et Magog, tout ça, vous savez, l'hiver atomique, la bombe, etc. Et les gens croyaient, dur comme fer, que ça y est, c'était le retour de Jésus. Vous voyez? Et que le Seigneur allait venir maintenant, sincèrement. Et c'est vrai que, bon, on est dans des temps... Voilà. Mais il disait, et je me souviens, elle était un peu triste, ma mère, parce qu'elle était enceinte de moi. Il disait, c'est pas le temps d'avoir des enfants. Parce que, voilà, Jésus revient, alors il faut pas... Mais je voudrais vous dire, ça, c'est anti-biblique, mes frères et sœurs. Je crois que c'est Martin Luther qui disait ceci, si Jésus revenait demain, aujourd'hui, je planterai un pommier. Nous devons faire des projets. Alléluia encore pour le Seigneur. Amen. Nous voulons vous bâtir encore pour Jésus. Et je crois que jusqu'au dernier moment, le Seigneur agira. Alléluia. Le Seigneur, eh bien, sauvera. Le Seigneur pardonnera. Le Seigneur, eh bien, réconciliera. Amen. Dans les familles. Et je termine en vous disant ceci. Eh bien, le Seigneur veille à ce que nous soyons en état de veille. Il veille à ce que nous veillons. Vous voyez ? Vous avez remarqué dans Jérémie 1 au verset 11, il nous est dit, que vois-tu ? Que vois-tu ? Le Seigneur tient Jérémie en éveil. Qu'est-ce que tu vois ? Le but du Seigneur, c'est que vraiment, Jérémie ait une démarche active à l'égard de la vision que Dieu lui offre. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu es en train de discerner ? Est-ce que tu prêtes attention à ce que je te dis ? Et il veut que nous soyons dans un état de veille et non pas dans un état de sommeil. Nous savons que faute de ne pouvoir veiller, notamment à Gethsémané, les disciples se sont endormis et lorsqu'il a fallu réagir eh bien, d'une manière spirituelle, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne se sont pas tenus dans la prière. Ils n'ont pas su veiller. Et Jésus leur dira, vous n'avez su veiller avec moi une heure. Peut-être que ça veut nous dire, ce petit texte, qu'on a besoin, eh bien peut-être, de passer une heure au moins par jour avec le Seigneur pour lire et prier sa parole, une heure. Voilà. Vous n'avez pas su prier une heure, vous voyez ? Alors, mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un pourrait fermer juste la porte là ? Parce qu'ils sont en train de répéter là. J'entends des beaux chants, j'ai l'impression que c'est la voix des anges. Voilà, qui vient là. Ah, c'est vos enfants, hein. Ça ne peut pas en être autrement. Vous avez vu comment ? Bon. Ah là là ! C'est la flatterie, ça. Hein, voilà. Il y a des enfants qui chantent faux aussi, hein, ça existe. Hein, mais bon. Mais pas les miens. Pas les miens. Oh, voilà. Alors, et l'Écriture nous dit donc, veillez et priez, Marc chapitre 13, verset 33. Paul priera également pour les Éphésiens et il demandera à ce que Dieu illumine les yeux de leur cœur, qu'ils soient vraiment conscients eh bien, des temps dans lesquels eh bien, nous sommes. Veillez et priez. Prier, ça veut dire j'ai les yeux fixés sur le ciel. Mais veiller, ça veut dire j'ai les yeux fixés sur la terre. Et mes frères et sœurs, ça veut dire regardez ce que je veux faire sur cette terre. Merci Seigneur pour la douce communion que j'ai avec toi qui me réconforte, qui me renouvelle. Mais j'ai besoin d'être vigilant par rapport à ce qui se passe dans ma vie, sur cette terre, les effets concrets, les choix que je dois faire en matière de mariage peut-être, en matière de travail, en matière de toutes sortes eh bien, d'actions, que je marche d'après ta parole. Alléluia ! Vous êtes d'accord avec ça ? Je veille sur le fait que je marche eh bien, dans ta parole. Et le Seigneur est capable de nous tenir en éveil, de nous réveiller en permettant un échec. Je trouve qu'il n'y a rien de plus... je cherche le mot là. Réveillant, non, c'est pas ça. Il n'y a rien de plus... quelque chose qui nous réveille qu'un échec, une contradiction. Tu sais, tu crois que tout le monde est d'accord. Tu te crois vraiment bien, là, voilà. Et puis, tu fais part de ton projet, mais ça te semble bien ficelé. Puis, il y a quelqu'un qui dit comme ça, non, c'est pas bon, moi, ça me plaît pas. Et puis, il y a ça. Et là, tu vois le château de cartes qui est en train de s'effondrer. Tout d'un coup, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, là? Cette contradiction te permet de te remettre en question. L'apôtre Paul dira, lui, moi j'ai une écharde dans la chair. On a conjecturé sur le fait de ce qu'était cette écharde. Est-ce que c'est vraiment une écharde, un problème physique? On n'en sait rien, ou un souci spirituel, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette situation qu'il traverse, ça l'amène toujours à demander la grâce de Dieu et le secours de Dieu. Et Dieu lui dit, mais qu'il ne lui enlève pas cette écharde, parce que grâce à cette écharde, il reste attaché au Seigneur. Et Jésus lui dit, ma grâce te suffit, ma puissance accomplie dans ta faiblesse. Mais alors ça le tient éveillé quand même, hein, parce qu'il lui dit, il dit ceci, c'est y a un ange de Satan qui me gifle. Alors certains ont pu dire, mais en raison du ministère du Seigneur, de Paul, on voit vraiment le développement de cette écharde, parce que partout où il passe, il a de l'opposition, etc. etc., etc. Bon, je vais conclure. Mais en tout cas, eh bien, cette affection, cet échec peut-être, cette maladie, cette contradiction a amené, eh bien, l'apôtre Paul et peut-être d'autres frères et sœurs à être aussi dans un état de vigilance particulier pour ne pas s'appuyer sur ses propres forces, mais s'appuyer sur le Seigneur. Martine, tu te souviens ? Ma grâce te suffit ? Parce qu'on en a passé des temps avec Gérard, en citant ce texte, hein, et on s'est posé la question, pourquoi cette maladie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette maladie, elle lui a permis de combattre. Et je pense que pour la personnalité qui était la sienne, il avait besoin de défis à relever. Il a relevé le défi, alléluia, en s'appuyant sur le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons veiller sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous arrêter. Et peut-être, nous avons besoin d'entendre le Seigneur nous dire, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Prends conscience que le Seigneur revient bientôt. Prends conscience que c'est son plan qui va s'accomplir. Alors, est-ce que tu es dans son plan ? Ou est-ce que tu es à l'extérieur de son plan? Et si tu étais à l'extérieur, mais reviens et donne-toi tout entier. Veille sur toi-même. Je termine. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Veille sur ce que tu entends, sur ce qui te motive, sur ce qui te dirige. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, hein, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est valable pour des pères et des mères de famille aussi. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on veut se remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Et dire, Seigneur, je veux être un Jérémie dans ma génération. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons.